Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Ta parole dit que tu cherches de vrais adorateurs qui t'adoreront en esprit et en vérité. Je veux t'adorer.
Je voudrais commencer par citer deux textes de l'Écriture que je ne commenterai pas directement, mais qu'il faudra garder à l'esprit tout au long de cette étude. Le premier texte se trouve dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 12, le verset 33. Je vous fais la lecture. J'extrais quelques mots de ce verset 33 du premier chapitre du livre des Chroniques, du chapitre 12 du premier livre des Chroniques. On nous parle des fils d'Issacar et on nous dit que ces fils d'Issacar savaient discerner les temps afin de connaître ce que devait faire Israël. Je retiens la traduction que propose la Bible dite à la Colombe et la Taube. Les fils d'Issacar savaient discerner les temps afin de connaître ce que devait faire Israël. Le deuxième texte que je cite, un passage plus classique de l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 9, versets 19 à 23. L'apôtre Paul écrit « Bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, et pourtant je ne suis pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, et pourtant je ne suis pas moi-même sans loi de Dieu, mais sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout cela à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Amen. Le message de l'Évangile est un message de salut. L'apôtre Paul écrit dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 1er, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'Évangile de votre salut, en lui vous avez cru. » Retenons l'expression « l'Évangile de votre salut ». Dans le livre des Actes, au chapitre 11 et au chapitre 13, l'Évangile est défini comme la parole de salut. Le christianisme est le type même des religions du salut. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, le salut n'est pas un thème périphérique, c'est au contraire un thème structurel. C'est ce qui donne à la Bible son unité profonde. C'est la réalité essentielle dont elle témoigne et dont elle attend la consommation finale. Le nom de Jésus ne signifie-t-il pas précisément « Dieu sauve » ? Sa mission et son œuvre sont exprimées dans son nom. Il définit lui-même sa mission de la sorte « Je suis venu sauver ce qui était perdu » Évangile selon Luc. L'apôtre Jean nous écrit dans sa première épître au chapitre 4 « Nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. » Et l'apôtre Pierre affirme clairement et nettement « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom offert aux hommes par lequel nous devrions être sauvés. » Les Écritures défendent deux thèses fondamentales. La première thèse, c'est que l'homme a besoin de salut. Et la deuxième, c'est que Dieu est le seul qui puisse lui procurer ce salut. La difficulté vient du fait que ces deux thèses ne semble pas s'imposer avec évidence aujourd'hui. le salut était jadis vécu comme une évidence. On croyait en Dieu. On prenait la colère de Dieu, sa sainteté, ainsi que le péché très au sérieux. On y était presque même obsédé. Par exemple, au 15e, 16e siècle, la crainte de la damnation était forte. Les hommes se sentaient coupables et se demandaient comment, malgré leur faute, ils pourraient échapper à la colère de Dieu. Aussi, le message des réformateurs, celui de la justification par la foi et du salut par la grâce, a été vécu comme une véritable délivrance. Mais de nos jours, la situation est bien différente. L'homme occidental ne vit plus dans l'angoisse du salut. Ce sens aiguisé de la culpabilité que l'on trouvait naguère, s'il n'a pas disparu, en tout cas, il est devenu plus diffus. Les gens ne veulent plus se reconnaître coupables. Ils s'estiment plus volontiers victimes que coupables, et ils utilisent habilement parfois, d'autres fois c'est fait de manière assez grotesque, mais parfois c'est assez habile, ils utilisent la génétique, la psychologie, la sociologie, la sociobiologie pour plaider cette thèse. Le thème de la colère de Dieu n'est pas très bien accepté. Nos contemporains se font volontiers l'image d'un Dieu gentillet, mièvre, qui ne pourrait condamner quiconque. S'il existe, il doit être ainsi. Sinon, on lui refuse l'existence parce qu'il ne correspondrait pas à l'image de Dieu que l'on voudrait aujourd'hui. Il correspondrait trop à l'image du Père Fouettard, du Dieu vengeur, dont on ne veut plus entendre parler. Le développement des sociétés de consommation permet à l'homme occidental d'aujourd'hui de répondre à ses besoins essentiels, de parvenir même à une certaine qualité de vie inconnue jusqu'alors. Cette satisfaction de ses désirs semble détournée des questions ultimes. Il se satisfait dans une sorte de jouissance immédiate du présent. De plus, l'homme d'aujourd'hui se veut autonome, autosuffisant. Il a tendance à refuser un salut ou même une transcendance qui lui soit extérieure. Et c'est pourquoi il faut vraiment être conscient que nous vivons dans une période particulière, peut-être même sans précédent dans l'histoire. On l'a caractérisée à l'aide de nombreuses formules. Mort de Dieu, désenchantement du monde, fin du théologico-éthique, sécularisation, laïcisation. La religion est reléguée dans la sphère du privé. On refuse les arguments d'autorité, l'hétéronomie, l'aspect englobant des religions. La sécularisation a entraîné un fort taux d'indifférence religieuse, que l'on peut par ailleurs qualifier pratiquement d'athéisme pratique. L'homme d'aujourd'hui estime qu'il peut très bien se passer de Dieu, construire sa vie sans lui, proposer une éthique sans référence à Dieu, soit pour la fonder, soit pour lui donner son sérieux et la faire respecter. Bref, il estime qu'il peut se passer de Dieu et de son salut sans être malheureux pour autant. Si bien que cela peut faire aujourd'hui un peu court, un peu rapide, dans notre prédication de citer d'emblée, je dis bien d'emblée, Pascal, il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu, ou encore saint Augustin, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en toi. Ce sont là deux vérités profondes auxquelles je crois, mais il faut bien se rendre compte que l'on les découvre souvent a posteriori, dans la communion avec Dieu et la prière. Cependant, ce monde moderne ou post-moderne, pour être plus précis, est complexe. La sécularisation de la société ne signifie pas forcément la mort de la religion, la mort de la spiritualité. L'homme reste un être religieux, sécularisation ou pas. Depuis les années 70, on assiste, d'après les sociologues, à l'apparition d'une période d'effervescence religieuse. Et cette effervescence religieuse serait liée au désenchantement à l'égard de la modernité, de sa croyance au progrès. L'expression mérite d'être retenue. Désenchantement à l'égard des promesses de la modernité, sa croyance au progrès, au bonheur pour tous. La modernité est loin d'avoir tenu toutes ses promesses. Non seulement elle n'a pas évacué les drames de la souffrance, de la pauvreté, de la précarité, mais même on peut plaider que l'angoisse qui est inhérente à la condition humaine a subi une subtile métamorphose. L'angoisse de damnation a cédé la place à l'angoisse de l'absurde, l'angoisse du non-sens, l'angoisse du vide. Malgré l'indifférence affligeante de beaucoup, la religiosité, la spiritualité n'a pas disparu. Loin de là, on parle de plus en plus de ce qu'il est convenu de nommer avec prudence le retour du religieux, dont les manifestations extrêmes sont le fanatisme et les dérives sectaires dont on va parler, je crois, plus tard. Le postulat sociologique selon lequel on assisterait à une disparition inéluctable de la religion ou de la spiritualité dans le monde moderne, caractérisé par la rationalité technico-scientifique, eh bien, ce postulat est battu en brèche. Cependant, les grandes religions en général et le christianisme en particulier ne semblent pas bénéficier de cet engouement pour le spirituel. D'autres aspirations, d'autres spiritualités sont apparues. Les plus modérés, la grande majorité veut une religion qui s'apparente à l'esprit du temps, hédoniste, individualiste et libertaire. Alors on se constitue une religion à la carte, en ces temps où la mode est au zapping, en faisant un bricolage syncrétique. Les sociologues caractérisent cette nouvelle spiritualité de nébuleuse mystique ésotérique, parce que les contours de cette nouvelle religiosité sont flous. À quel type de salut aspire l'homme religieux moderne? Comme l'a dit le sociologue Françoise Jean-Pion, aujourd'hui, le but est à atteindre, c'est l'épanouissement personnel, le bonheur, pas dans l'au-delà, mais ici-bas, hic et nunc, ici et maintenant. Un bonheur terrestre qui donne une place importante à la santé, bien le plus précieux de l'individu. L'idéal étant la santé bien-être, la santé vitalité, la santé équilibre, assurée par les médecines douces, parallèles ou exotiques, voire par les chamans et autres guérisseurs. Cet accent sur un salut orienté vers le bien-être ici-bas, l'accomplissement personnel, correspond bien à la mentalité actuelle, ardemment tournée vers le monde, hédoniste, narcissique, recherchant d'abord l'élimination de la souffrance, l'épanouissement personnel. Ceci explique notamment le succès de certaines philosophies orientales. Les Occidentaux d'aujourd'hui sont friands des épices spirituelles de l'Orient. Alors, c'est un tel contexte socioculturel et religieux que les fils d'Issacar d'aujourd'hui, vous et moi, c'est un tel contexte que ces fils d'Issacar doivent pouvoir discerner afin de pouvoir agir et dire le message de l'Évangile, le message du salut, ce qui montre l'urgence et aussi la difficulté de la tâche. Mais avant de proposer quelques pistes sur la manière de dire ce salut, rappelons-nous ce qu'est le salut bibliquement. Bibliquement, le salut se dit dans une pluralité de vocabulaire. Le témoignage des Écritures est multiforme. Les apôtres disent le même évangile dans des langages divers, à l'aide d'outillages conceptuels parfois différents en fonction du contexte et de l'auditoire. La Bible en parle à l'aide de nombreuses métaphores. Elle en parle comme d'un exode, d'une victoire, d'une délivrance, d'une guérison, d'un affranchissement, d'une libération, d'une restauration, d'une réconciliation. Elle a aussi recours à un vocabulaire juridique précis. Justification, restitution, remise d'une dette, paiement d'une dette, rachat, rédemption, sacrifice, expiation, propitiation, satisfaction, substitution, adoption. Pour simplifier, disons qu'il y a deux images bibliques principales qui peuvent servir à l'élaboration de la notion de salut et qui peuvent être signifiantes aujourd'hui. La première image, c'est celle de la détresse. C'est l'image physique de la maladie qui s'oppose à la santé et à la vie. La guérison est alors une métaphore du salut. Le salut, c'est la santé retrouvée, c'est la plénitude de la vie. Cette image biblique est riche parce que la maladie apparaît aussi comme signe du péché, parfois, dans les Écritures. Au cours de son ministère, le Seigneur a opéré de nombreuses guérisons, mais il faut voir plus loin que le salut purement corporel, le salut purement thérapeutique. La guérison que le Seigneur apporte devient signe, symbole d'un salut plus total. C'est vrai que le salut peut apporter la guérison physique ou même psychique, mais il ne faut pas les identifier purement et simplement, parce que la tentation de nos jours est très grande. La deuxième image que l'Écriture utilise, c'est l'image politique de la servitude, de l'esclavage. Le salut est alors compris comme libération. C'est le fait d'accéder à la vraie liberté. C'est le fait de passer de la servitude au service. Service de Dieu et du prochain. Cette multiplicité de vocabulaire et d'images bibliques permet non seulement de percevoir la richesse de cette thématique, mais encore de mieux nous interroger sur sa traduction. Parce que telle formulation peut se révéler plus accrochante, plus signifiante, plus parlante aujourd'hui que telle autre. On peut plaider, et c'est la thèse fondamentale que je pense qu'on peut développer, c'est que la diversité des expressions du salut biblique rejoint l'expérience des angoisses de l'homme d'aujourd'hui et de toujours. La diversité des expressions du salut biblique rejoint l'expérience des angoisses de l'homme d'aujourd'hui et de toujours. Ainsi, nous pouvons essayer de prendre en compte les formes multiples des cheminements des hommes d'aujourd'hui et tenter de trouver le thème biblique approprié. Nous devons donc nous garder de prêcher le salut de manière réductrice, stéréotypée, ou de manière théorique, c'est-à-dire sans rapport avec ce que vivent et sentent concrètement les gens. Le Seigneur Jésus lui-même était sensible à la situation existentielle de ses auditeurs. C'est vrai qu'il dénonçait fermement le péché, mais il disait aussi « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Fatigués et chargés par la faute, par le sentiment de culpabilité, certes, mais aussi par le poids de la vie, par les vicissitudes de la vie, par l'angoisse, les différentes angoisses, angoisse de l'absurde, du non-sens, par la peur de la solitude, la peur de la mort. En Jean chapitre 4, le Seigneur Jésus part aussi d'une discussion autour de l'eau avec la femme samaritaine, et il lui dit qu'il peut offrir de l'eau vive. « Quiconque boit de l'eau du puits aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Il dit aussi la même chose en Jean chapitre 7, le dernier jour de la fête des huttes, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » En Jean chapitre 6, le Seigneur se présente comme le pain de vie, et il affirme « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » c'est que le salut biblique comporte deux aspects. Un aspect négatif, c'est l'arrachement à un état de malheur et d'épreuve. Il s'agit d'être sauvé d'un danger, d'un mal, du malheur, de la mort, du néant, de l'oppression, des ennemis, de la solitude, de la culpabilité, de l'ignorance de la vérité, d'une vie vide de sens, de la colère de Dieu, de la pression du monde. Bref, il s'agit essentiellement d'être délivré de ces maux qui viennent du péché et de ses conséquences. Mais le salut biblique ne se réduit pas au sauvé d'eux, sinon il resterait un sauvetage. Il y a un être sauvé pour, c'est-à-dire en vue d'un bonheur, en vue d'une plénitude de vie, communion avec Dieu, nouvelle vie au sein d'une communauté nouvelle, vie éternelle. Cela signifie que le salut ne désigne pas uniquement le sauvetage en tant qu'acte, mais aussi son résultat, la vie, la paix, la communion avec Dieu retrouvée. Il me semble que ces deux aspects, ces deux dimensions du salut doivent être prêchées sans séparation. Un débat important porte sur l'articulation logique de ces deux aspects. S'agit-il d'abord d'insister sur le salut comme sauvetage des conséquences du péché, ou plutôt insister sur l'aspect positif, en voyant le sauvetage comme un passage obligé? La question, donc, c'est celle du préalable. Vermeilen, qui est un bibliste catholique, opte résolument pour la deuxième hypothèse. Selon lui, être sauvé, c'est atteindre une plénitude, être vraiment soi-même. Bien sûr, dit-il, notre expérience de la souffrance et de l'imperfection humaine nous fait souvent mettre l'accent sur la nécessité d'une transformation pour atteindre cet état initial. Nous devons être sauvés de diverses réalités négatives. Mais Vermeilen dit que ce sauvetage n'est pas en lui-même le salut, il n'en est que le passage obligé. De même, Sesboué, un très brillant théologien catholique, pose clairement la question, doit-on parler du péché avant de parler du salut? À cette question, dit-il, il faut répondre résolument non. La révélation ne va pas du péché au salut, elle va du salut au péché. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, Dieu vient d'abord nous sauver à main forte et à bras étendus, et c'est au cœur du salut et de la vie qu'il nous offre, qu'il nous révèle dans toute sa radicalité la dimension du péché. Le salut chrétien n'est donc pas dépendant d'une certaine conception du péché. C'est bien plutôt le péché qui doit être compris à la lumière du salut et normalement étudié après lui. Voilà donc une position qui soutient. Mais on peut remarquer qu'une telle présentation plaira davantage aujourd'hui. Mais correspond-elle vraiment à l'accent du Nouveau Testament sur la faute, avec ce que de l'extérieur on pourrait voir comme une véritable obsession? Le manifeste de Manille, que j'ai pris le temps de lire avant, opte pour la position inverse. À l'article 4, on peut lire « Nous affirmons que les êtres humains, bien que créés à l'image de Dieu, sont des pécheurs et coupables, sont des êtres pécheurs et coupables, perdus sans le Christ. Cette vérité est nécessairement préalable à celle de l'Évangile. » Ceci correspond bien à l'esprit évangélique, qui en général place au cœur du message du salut le problème de la faute et de la culpabilité du pécheur devant Dieu. D'où la stratégie adoptée, mettre le péché en évidence par la prédication de la loi de Dieu, qui servira à démontrer la culpabilité du pécheur avant d'annoncer le message libérateur de la grâce que Dieu nous accorde à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Cependant, il faut reconnaître qu'un tel schéma, s'il a connu un certain succès dans le passé, fonctionne moins bien aujourd'hui, parce que nos contemporains ont perdu le sens de la culpabilité devant Dieu. Il leur manque le sens du coram Deo des hommes du XVIe siècle. Ceci explique donc le succès des spiritualités où l'idée de péché, de culpabilité n'existe pas, tel le bouddhisme. Nos contemporains, fils de la postmodernité, veulent à la fois une éthique et une spiritualité indolore. Il me semble que l'on peut concéder que subjectivement, c'est lorsque le pécheur fait l'expérience de la grâce, c'est lorsque le pécheur fait l'expérience du pardon, qu'il est capable d'une juste appréciation de la gravité et de la profondeur du péché. Parce qu'à ce moment-là, il acquiert le sens de la sainteté. Mais il ne faut pas oublier l'enseignement de Romains chapitre 2. La loi inscrite dans le cœur définit objectivement le péché, mais cette vérité est refoulée par l'homme pécheur. On a souvent raconté cette histoire. Différentes églises protestantes avaient organisé une grande campagne d'évangélisation et elles avaient mis un peu des affiches un peu partout avec les slogans « La Bible donne la réponse, le Christ est la solution ». Et un journaliste leur a fait remarquer qu'elles avaient oublié une seule chose, préciser quel était le problème. Du coup, les gens ne savaient pas de quoi on parlait. On ne peut pas prétendre proposer des solutions aux personnes qui ne voient pas de problème. Jésus a bien dit qu'il est venu pour les malades et non pour les bien portants. L'auteur de l'article « Salut » du dictionnaire Kittel affirme avec force, je retiens cette expression, « l'universalité de la déchéance placée sous le signe de la colère, l'impossibilité d'y échapper par la pratique de la loi et la nécessité de la rémission des péchés distingue le salut néo-testamentaire de celui que l'on retrouve dans le judaïsme, l'hellénisme et la gnose. » Il me semble qu'il ne faut pas oublier cela. On aura beau tourner les textes bibliques dans tous les sens, le problème de la faute restera le problème fondamental de l'homme devant Dieu. Alors résumons-nous. Objectivement, le salut biblique doit être compris comme la rédemption accomplie une fois pour toutes par l'œuvre de Christ. Il consiste en l'affranchissement de l'homme par rapport au péché, à la faute, à la misère, à la mort et en la restauration de la communion avec Dieu. Cette communion avec Dieu rétablie lui permet d'accéder à la vie véritable, à la vie en abondance, à la liberté des enfants de Dieu. Mais comment dire ce salut? Il faut bien se rendre à l'évidence. Le vocabulaire juridique ou judiciaire appliqué aux religieux dans un climat de spiritualité mystique, non seulement est incompris, mais il risque même d'effrayer. Cependant, il faut constater aussi que notre situation est proche du climat spirituel qui régnait au début de l'ère chrétienne, et nous devons prendre garde à tomber dans le même piège, à renouveler l'erreur que les pères de l'Église ont commise en prêchant un salut purement mystique. Si l'on veut être compris, si l'on veut que notre message trouve quelque écho dans le cœur de l'homme d'aujourd'hui, il faut partir de la situation existentielle des auditeurs et à l'aide d'une pédagogie appropriée, présenter tout le conseil de Dieu. Quelle méthode employer ? C'est celle que Paul utilise en Actes chapitre 17 et que je détaillerai demain si Dieu me prête vie. Partir de la situation des gens et chercher malgré les déformations des points de contact avec le message de l'Évangile, et cela à la fois pour établir le dialogue, pour amorcer le dialogue et marquer les différences. Il faut rejoindre l'homme d'aujourd'hui où il est et tenter de traduire sans trahir dans sa langue la parole de Dieu. Se faire tout à tous, comme nous dit l'apôtre Paul, tout en restant fidèle. Pour cela, il nous faut apporter un message qui parle. Notre message doit pouvoir parler, donc pouvoir concerner, intéresser les gens, trouver écho en eux. Comme le signale Joseph Doré, si surnaturel et eschatologique qu'il soit, le salut apporté par le Christ ne peut paraître crédible que dans la mesure où il est susceptible de trouver quelque effectivité dans le cadre très concret de l'histoire présente, temporelle, terrienne des hommes. Ce qui signifie que pédagogiquement, il est important de montrer la crédibilité du salut que nous prêchons. Notre message doit donc parler, mais il doit être aussi un vrai message. Autrement dit, il ne faut pas se contenter de dire uniquement ce que les gens veulent entendre. Il faut un message qui vienne d'ailleurs, qui apporte réellement une aide, qui soit message du salut. Il y a dans notre prédication une dimension polémique que nous ne pourrons pas éviter. On doit donc à la fois accompagner l'homme dans son cheminement, pédagogiquement en partant de sa situation existentielle, mais il faut également corriger, critiquer, lui dire aussi ce qui lui plaira moins. Autrement dit, pour dire le salut aujourd'hui, il faut à la fois souplesse et fermeté, être diplomate et polémiste, éviter les faux scandales sans édulcorer le vrai. L'homme d'aujourd'hui a soif d'épanouissement, il a soif d'harmonie intérieure. On pourrait essayer de partir de là. On peut tenter de cheminer avec lui en montrant qu'au bout du compte, l'homme étant une créature de Dieu, son humanisation totale ne peut se réaliser en dehors de son adoption, de la communion avec Dieu. Dieu n'est pas contre l'homme, il n'est pas un empêcheur de vivre, il ne veut que notre bonheur. Mais Dieu sait qu'une autonomie pure, radicale, une autonomie qui ferait dépendre l'homme que de lui-même, est un mensonge. Car qu'il le veuille ou non, l'homme dépend de Dieu qui le maintient en vie. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et d'autre part, Dieu sait qu'une telle autonomie représente pour l'homme la pire des aliénations. On peut traduire ainsi le thème de l'eau vive que présente Jésus. Jésus est cette eau vive qui désaltère complètement. Il est le pain de vie qui comble notre faim. Il est notre ami qui comble notre solitude et nous fait membres d'une communauté nouvelle. En partant de cette recherche d'épanouissement personnel, on peut tenter de faire apparaître le péché, en montrant que cette recherche est liée à un certain narcissisme, parce qu'on cherche son salut sans Dieu, à l'aide de certaines techniques. C'est un refus de s'ouvrir à l'autre, à l'altérité. Or, bibliquement, le salut consiste en l'ouverture à un autre, à qui on doit faire confiance, en qui on doit croire, et de qui on doit recevoir le salut comme un don. Et d'autre part, on peut montrer que ce qui nous aliène, ce qui nous empêche de nous épanouir, l'obstacle à notre épanouissement, ce n'est pas le Dieu d'amour, mais c'est bien le péché. Celui qui s'y livre devient son esclave. Et le Seigneur affirme qu'aucune technique ne peut nous en libérer. Seul le Fils peut nous rendre véritablement libres. Le thème de l'harmonie intérieure peut être converti en celui de la paix. Ce que l'homme recherche, c'est la paix. La paix avec lui-même, la paix avec son environnement, mais surtout la paix avec Dieu. Cette paix qui surpasse toute intelligence. D'ailleurs, une telle recherche d'harmonie ne cache-t-elle pas une culpabilité inavouée? On peut creuser ainsi la notion de culpabilité. Elle est diffuse, c'est vrai, mais elle n'a pas disparu pour autant. Les psychologues, les psychanalystes confirment. De manière déguisée et inconsciente, la culpabilité travaille profondément nos contemporains. Il faudrait la traquer, chercher où elle se trouve et montrer qu'ultimement, elle correspond bien à une culpabilité devant Dieu, due à la perception de la faute qui est reconnue mais qui n'est pas avoué. Cependant, un tel travail, il faut le reconnaître, est un peu plus difficile. On peut aussi tenter de sonder l'angoisse de la mort. L'homme sent bien qu'il meurt, mais qu'il est un être pour la vie. Le salut est souvent présenté, surtout dans l'évangile de Jean, comme libération de la mort, comme la vie abondante. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Dieu nous donne cette vie abondante, acquise par la mort et la résurrection de Christ. On fait ainsi apparaître le sens de la mort de Christ et de sa résurrection et de l'espérance chrétienne. Il y a surtout la question du sens, le sens de la vie. L'angoisse de damnation, disions-nous, aujourd'hui cède la place à l'angoisse de l'absurde, l'angoisse du non-sens, l'angoisse du vide. On est de plus en plus convaincu de nos jours que ni la science, ni la technique, ni l'économie ne peuvent apporter une solution ou ne peuvent résoudre la question du sens. Il me semble que cette piste peut être approfondie. Je lis une longue citation ici de Ricoeur qui résume excellemment la situation contemporaine. Il écrit « Comprendre notre temps, c'est mettre ensemble, en prise directe, les deux phénomènes, le progrès de la rationalité et ce que j'appellerais volontiers le recul du sens. » Il continue en évoquant l'effacement des buts dans la société. Il affirme que l'absence croissante de buts dans une société qui augmente ses moyens est certainement la source profonde de notre mécontentement. À mesure que sont satisfaits les besoins élémentaires de nourriture, de logement, de loisirs, nous entrons dans un monde du caprice, de l'arbitraire. Nous découvrons que ce dont manquent le plus les hommes, c'est de justice, certes, d'amour sûrement, mais plus encore de signification. L'insignifiance du travail, l'insignifiance du loisir, l'insignifiance de la sexualité, voilà les problèmes sur lesquels nous débouchons. Nos contemporains sont davantage sensibles à cette question du sens, à cause du vide laissé par l'effondrement des idéologies, le manque de repères, la perte des valeurs, l'illusion aussi du consumérisme. Cette société de consommation incapable de nous accorder, comme il le voudrait, un quelconque salut laïque. J'ai trouvé chez un auteur une citation que je vous livre. C'est Pascal Bruckner, dans son livre « La tentation de l'innocence ». Il écrit « Une fois obtenu ce que l'on désire ce que nul objet ne peut nous apporter ». Le salut laïque, la transfiguration, et l'on oscille entre l'accablement d'avoir trop et la peur de manquer de l'essentiel. À cette angoisse de l'absurde, à cette angoisse du non-sens, il me semble que l'on peut proposer le thème évangélique de la lumière. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus nous sauve, il nous éclaire, il donne une orientation, il donne un sens à notre vie. Je pense donc qu'il est important de sonder toutes ces pistes, de présenter aussi le salut sous son jour positif, le sauver pour le rétablissement de la communion avec Dieu, l'équilibre que Dieu peut nous apporter dans notre vie, l'épanouissement que notre Créateur peut nous apporter, en ne se crispant pas uniquement sur l'aspect négatif, le sauver d'eux, mais il serait quand même malhonnête d'éradiquer l'aspect négatif. Il ne serait pas juste de taire l'accent biblique sur la faute, cette faute qui entraîne la colère de Dieu. Ce thème est très fréquent chez l'apôtre Paul. Romains 5, 9, justifiés par son sang, nous serons sauvés par lui de la colère. 1 Thessaloniciens 1, 10, Jésus nous délivre de la colère à venir. 1 Thessaloniciens 5, 9, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. La stratégie à adopter serait d'essayer, dans certaines conditions, de révéler le sauvé de à partir du sauvé pour. Cette stratégie peut paraître illogique. Elle semble être un compromis avec la pensée ambiante. Je l'ai dénoncé en parlant de la thèse de Sesbué, mais en fait, je critique sa logique théologique. Cependant, je reconnais que concrètement, une telle démarche peut présenter un certain intérêt. On peut faire apparaître la gravité du péché, la profondeur du péché, à partir d'une prédication sur l'amour de Dieu, sur la sainteté de Dieu. Il ne faut pas croire que nos contemporains sont forcément logiques. Ce serait une erreur de le croire. Il y a beaucoup d'inconséquences chez nos contemporains. Donc, on peut partir de tous ces besoins de l'homme, de toutes ces angoisses, mais il faut prendre garde à une utilisation irréfléchie de toutes ces angoisses et de tous ces besoins. Il faut être attentif à cette exhortation de Voltaire. À trop vouloir faire de Dieu une réponse aux attentes de l'homme, on risque de le réduire à une simple projection subjective de nos besoins. Il faut aussi laisser la place pour le Dieu du désir. Il faut donc chercher des convergences, des points de contact que nous utiliserons comme un tremplin. Mais il faut aussi le courage d'annoncer ce qui plaît le moins, les thèmes de la faute, de la relation brisée avec Dieu, de la culpabilité du pécheur devant Dieu, de la nécessité de la foi, de l'exclusivité du salut en Christ. Ces thèmes plairont moins, mais elles font partie intégrante du message du salut. De plus, en tant que prédicateur, nous devons nous garder d'être des marchands d'illusions. Le salut chrétien a une dimension eschatologique. C'est très net chez l'apôtre Paul. L'épanouissement total, l'épanouissement absolu est eschatologique. La foi ne délivre pas de la condition humaine. Elle permet de mieux l'assumer. Elle permet d'avoir une espérance. Mais le salut biblique n'est pas purement terrestre. Et d'ailleurs, le message de l'Évangile implique aussi celui de la croix à porter. L'épanouissement biblique est loin d'être l'hédonisme individualiste tel qu'on le voudrait aujourd'hui. Pour terminer, deux convictions que je garde. Pour bien annoncer le salut aujourd'hui, il faut réellement aimer les personnes à qui on s'adresse. Réellement vouloir se faire tout à tous, dans l'espoir de les gagner. Il faut être patient, pédagogue. Tout ne se dit pas en une seule prédication. Tout ne se joue pas forcément sur une seule prédication. Je profite pour vous signaler que demain, je continuerai et approfondirai ce thème. Ne jugez pas non plus tout sur une seule prédication. Mais notre prédication doit être pédagogique. Apprendre à dire tout le conseil de Dieu en fonction des capacités d'assimilation de nos auditeurs. La tâche n'est pas simple, mais il ne faut pas se décourager devant la difficulté. C'est vrai, nous ne pouvons plus être triomphalistes aujourd'hui. Notre époque n'est pas identique à celle des réformateurs. Mais croyons que le Saint-Esprit œuvre dans les cœurs. Il accompagne notre prédication. Il accompagne notre parole. Et ceux que le Père a choisis entendront sa voix et croiront. L'Évangile ne sera scandale que pour ceux qui périssent. Mais elle restera toujours une puissance de Dieu pour le salut que quiconque croit. Amen.